concentrée et diversifiée. On va commencer par Nadia, qui est auteur de romans jeunesse.
Donc ma présentation s'appelle Le vampire à la science, c'est mon frère Darwin. Elle fait plus ou moins sur les trois ans,
j'ai 18 à
4 ans. On a vu à la suite. Richard Gagnon, qui est auteur de bande dessinée. Et Vincent Tassi, qui est journaliste, romancier, novelliste.
Un roman plus dans le
temps.
Donc, on va parler aujourd'hui de plusieurs visions du thème du mythe vampirique. On va recommencer par Nadia, qui est donc romancière en jeunesse et qui nous propose dans son roman le premier.
Ça, c'est un texte d'Odile.
Sur le stand de l'Ibrahim.
Qui parle d'oiseaux voraces avec un bec aiguillé. Sortaient la nuit pour attaquer les nouveaux-nés, majoritairement, se nourrir de leur sang et dévorer leur chair. Ces oiseaux
Nadia,
voraces,
Donc le premier, j'avais envie de revenir effectivement aux origines, de ne pas avoir un vampire romantique, 19e, ou un vampire trop moderne, qui brille au soleil ou autre. J'avais envie de retrouver un côté très animal au vampire et de remonter comme ça. Au tout début, la première idée, je voulais vraiment partir presque à l'homme de Néandertal, mais je me suis dit que ça me faisait gérer 40 000 ans d'évolution psychologique du personnage, donc je ne le sentais pas trop. Donc je suis revenue à quelque chose d'un petit peu plus accessible, même si je gère quand même à peu près 2000 ans, c'est pas mal. Donc je suis partie comme ça, voilà, on est à la fin du néolithique. L'idée, c'était de se dire comment le premier vampire a découvert sa condition, accepté sa condition, comment il le vit, sans qu'il ait quelqu'un qui va lui expliquer ce qui lui arrive. Souvent, parfois, on a dans des romans de vampires un personnage de mentor qui va transformer un vampire, qui va lui expliquer ce qui lui arrive, les codes, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et comment lui, le premier, il va découvrir ça ? Comment ? Enfin voilà, c'est pas forcément hyper logique de découvrir qu'on est immortel, de découvrir qu'on ne peut pas sortir au soleil alors qu'on l'a fait toute sa vie, qu'il faut boire du sang culturellement. Voilà, c'est pas logique, même sur la fin de la préhistoire, c'est pas logique de boire du sang humain en tout cas. Donc voilà, toute l'évolution psychologique de ce personnage là j'avais envie de travailler aussi sur l'opposition, enfin les luttes fratricides, hein, l'opposition comme ça. Qu'est-ce qui fait que depuis Abel et Caïn, depuis Romulus et Rémus, et depuis la nuit des temps, des frères et sœurs s'entretuent, qu'est-ce qui fait que j'avais envie de tuer ma sœur quand on était petite, et qu'est-ce qui fait que j'empêche mes enfants de s'entretuer aujourd'hui, et donc d'avoir ce côté un petit peu universel de la lutte entre frères, là, pour le coup. Donc on a une opposition très forte entre deux frères, un qui va donc se transformer en vampire, un qui va être plutôt du côté des loups-garous. Je ne voulais pas aller trop dans le cliché, et en même temps, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que à l'origine du mythe des loups-garous, il n'y avait pas du tout le côté morsure, qui est vraiment très récent, enfin ça date des années 50 du cinéma américain, mais avant, il y avait des légendes autour du fait de porter la peau d'un loup ou boire à la source d'un loup, donc boire dans une rivière quand un loup est en train de boire au-dessus. Et je me suis dit, ça, c'est des légendes qui existent depuis très très longtemps, forcément, parce que porter la peau d'un loup, enfin, faut déjà porter des peaux de bête, quoi. Donc, j'ai voulu garder cette opposition vampire-loup-garou en apportant une petite originalité, j'espère, par l'époque et par le traitement. Enfin, voilà. J'espère que vous voyez.
La façon dont Vain,
yes.
le héros, ou l'anti-héros, d'ailleurs, de ton roman,
oui.
Contracte le virus vampirique, elle est très inhabituelle, en fait, elle est naturaliste.
J'avais envie de quelque chose de presque accidentel. Qui n'est pas une explication divine, ou c'est pas un démon qui va prendre possession de son corps. Je voulais que ça lui arrive presque, ouais, presque naturellement. D'ailleurs, pour lui, on est quand même bien avant toute la question de la religion. Donc pour lui, à quoi il va se rattacher ? Il va se rattacher à la nature. C'est la nature qui l'a rendu comme ça. Pourquoi ? Pour lui donner une mission. Voilà, qu'est-ce qui fait que la nature le ramène à la vie autrement, différent. Et donc voilà, lui, il va rattacher ça effectivement beaucoup plus à c'est la nature qui m'a rendu comme ça, en tout cas quelque chose de naturel, effectivement.
Il y a une autre originalité entre guillemets dans ton roman, c'est que ton personnage, contrairement effectivement à d'autres gens empiriques, il n'est pas sympathique.
Non.
Il imite, il est malsain, il est très antipathique.
Oui.
Et pourquoi tu. C'est très bien, mais tu c'était conscient, cette orientation?
Oui, c'était une des grosses difficultés de ce roman, c'est d'avoir un personnage pour lequel on a envie de savoir ce qui va lui arriver, mais qu'on n'aime pas. Voilà, c'était difficile. En fait, pour moi, le vrai vampire du quotidien, c'est le pervers narcissique. C'est la personne qui va vous pomper de l'énergie au quotidien, qui va... Voilà. Donc, j'avais envie de ce côté pervers narcissique dans mon personnage. Il va mourir et ressusciter, donc, à 17 ans à peu près. Donc, il va rester bloqué comme un espèce d'éternel adolescent. C'est jamais de sa faute. C'est, voilà, et un peu tête à claque. Enfin, on a un peu envie de le secouer. Moi, j'aime bien les personnages qu'on a un peu envie de secouer. Mais du coup, voilà, c'est pas un personnage qu'on aime. Mais en même temps, on va comprendre la logique qui l'anime, même si j'espère qu'on la cautionne pas du tout parce qu'elle est pas du tout saine. Donc, oui, ça a été un choix, mais c'était pas facile.
D'accord. On va passer maintenant à Richard, qui est là pour nous présenter le Chant des Striges, qui est une série de bandes dessinées qui compte actuellement 17 tomes,
ouais.
Qui va trouver sa conclusion le 18 l'an prochain. Pareil, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de la série, sachant que les Striges sont des créatures un peu aussi extraordinaires par rapport aux mythes vampires actuels?
Ouais, alors effectivement, là, je par rapport aux Striges, on est complètement en décalage, hein, avec la figure traditionnelle du vampire. On n'est pas du tout dans un univers gothique 19e, ni romantique. On est dans une époque contemporaine. Et les Striges sont des créatures qui sont antédiluviennes, quoi, qui datent de l'aube de l'humanité, en fait, mais qui sont cachées, dont on n'a pas connaissance, et qui... Les Striges, en fait, c'est une créature de la mythologie grecque. Le nom vient de la mythologie grecque. Les Striges, c'était des sortes de harpies. C'était l'équivalent des harpies dans la mythologie grecque. Et c'était aussi les sirènes d'Homère qu'il appelait les Striges, qui n'étaient pas des femmes poissons, hein, comme le Moyen-Âge les a transformées, mais qui étaient au départ chez Homère dans l'Odyssée d'Ulysse, qui étaient des oiseaux à tête de femme. Et donc leur chant attirait les marins, enfin voilà. Et donc du coup on est parti de cette mythologie grecque, et puis on a mixé ça avec une forme de vampirisme, mais de vampirisme psychique essentiellement. C'est-à-dire que les Striges manipulent les humains, nous inoculent des pensées, des désirs et des objectifs qui sont censés obéir à une espèce de d'ordre des choses, de destin. Enfin bon, après ça, je vais pas développer toute la mythologie des Striges, mais en gros, ce sont plutôt des vampires psychiques qui nous pompent le cerveau, quoi, et la volonté. Après, visuellement, ouais, ça n'a rien. On est plus proche d'une forme d'ange noir, entre l'ange noir et la gargouille, plutôt que de Anne Rice ou de Dracula. Et voilà, je voulais rajouter quelque chose, mais ça vient de m'échapper.
Les Striges en question, on influent quand même un peu plus que ça sur la société, parce qu'elles ont engendré des hybrides.
Alors
des
oui. Ouais, alors là effectivement... comme les Striges sont présents, enfin, dans l'ombre toujours, mais accompagnent l'humanité depuis l'aube des temps, on considère que c'est les Striges qui ont amené la conscience, on va dire, chez les premiers hominidés, qui ont fait passer du singe à l'homme. Y a vraiment un rapport avec les anges directement, l'ange déchu, Lucifer. Voilà, on rapproche ça de la mythologie des Striges. Et puis, effectivement, il y a une question, alors sans trop spoiler la série, mais à un moment donné, il y a un événement dans l'histoire des Striges qui les rend stériles. Donc du coup, ils ne peuvent plus se reproduire, même s'ils ont une longévité énorme. Ils savent qu'à un moment donné, la race des Striges est amenée à s'éteindre. Du coup, si les Striges sont amenés à s'éteindre, probablement que l'humanité ne va pas s'en sortir de la même manière, quoi. Et donc, se pose la question de comment, quelle solution trouver à cette stérilité. Et certains striges ont la perverse idée de copuler avec des humains pour créer pour une forme d'hybridation et perdurer de cette manière-là. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un des enjeux de la fin de la série. Ça, ouais. Ouais.
La série se déroule dans un environnement contemporain, même s'il n'y a pas vraiment de référence de fait. Mais on se rend bien que c'est facile, d'ailleurs, il y a un ancrage temporel,
oui, parce
que
oui,
c'est
oui.
Les années 2000 qui sont indiquées.
Complètement.
Curieusement, le mot de vampire n'est jamais donné, même si techniquement on peut dire que ce sont des vampires.
Je crois
comment
qu'on le dit.
Ouais.
Alors voilà, il y a un clin d'œil au vampire avec on a donné ce nom-là à un chat qui est totalement anecdotique hein, dans le début de l'histoire, mais qui s'appelle Vampire et qui lèche le sang, qui trouve sur des gens blessés ou morts. Mais ça, c'est vraiment anecdotique. Et je crois qu'à une seule reprise, on dit dans les premiers tomes, à un moment, les striches sont vampires, les striches sont sirènes. Voilà.
Oui,
je crois que c'est le seul moment dans la série où on cite précisément le terme de vampire. Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est qu'au-delà du mythe du vampire, on a été beaucoup, beaucoup inspiré par Lovecraft, en fait, par les grands anciens, le mythe de Cthulhu, en fait. Et les striches sont un mélange de toutes ces mythologies fantastiques qui nous ont marqués hein, quand on était ados. Et voilà, on a mixé tout ça. Donc les striches, c'est à la fois les grands anciens, c'est à la fois du vampire, de la sirène. Enfin voilà, c'est un bon gros mix, quoi.
D'ailleurs, chez Nadia, en repensant à ton roman, il n'y a plus le terme de vampire, mais jamais...
Non, parce que le personnage lui-même, c'est pas ce qu'il est devenu, et que le terme de vampire est apparu bien, bien, bien après, donc c'était pas logique de l'utiliser. Du coup, c'est pour ça que le bouquin s'appelle Le Premier, et pas Le Premier Vampire, par exemple.
On va passer à Vincent, qui se démarque également du vampire canonique, entre guillemets, d'une façon encore plus surprenante, puisque cette démarcation est sexuelle, pour les choses hein, comme ça. Dans la nouvelle dont on va parler, qui est Mademoiselle Edwarda, le personnage se fait mordre la veille d'une opération qui doit lui permettre de changer de sexe. Ce qui fait que il est opéré, mais il se passe quelque chose. Il doit passer du sexe masculin au sexe féminin. Je vais essayer, Vincent, de nous en dire un petit peu plus.
Oui, c'est ça. C'est que le personnage est une femme née dans un corps d'homme, a donc des attributs sexuels masculins, mais ça ne lui convient pas. Donc, elle souhaite se faire opérer pour changer de sexe. Et elle prend un traitement. Hein. Bon, il y a un traitement qui se prend très longtemps avant la véritable opération. Elle a pris son traitement. Et la veille de son opération, elle va faire un petit peu la fête gentiment dans un bar. Et puis, elle rencontre un vampire qui la mord. Et le lendemain, elle ne se sent pas très bien. Elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Mais elle le prend l'avion pour aller se faire opérer. Et... j'ai repris l'idée qu'il y a dans la mythologie d'Anne Rice, comme quoi le vampire devient immuable une fois qu'il est vampire. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Entretien avec un vampire, par exemple, Claudia, à un moment, se coupe les cheveux, mais il repousse, voilà. Et ben, là, c'est pareil, mais ce n'est pas avec les cheveux. Donc, c'est plutôt triste pour le personnage qui donc a choisi de s'appeler Edwarda. La nouvelle s'appelle Mademoiselle Edwarda, c'est une référence à une très courte nouvelle de Georges Bataille qui s'appelle Madame Edwarda, que j'ai lue en fait un peu avant d'écrire la nouvelle, qui m'a beaucoup marqué. Et du coup, elle veut s'appeler Edwarda, c'est son prénom de femme, et il y a toute une histoire par rapport à ce prénom qu'elle pourra finalement jamais porter. Et donc on est face à un vampire qui ne se satisfait pas de sa condition, hein. D'ailleurs, la nouvelle, elle se trouve dans un recueil qui s'appelle Vampire malgré lui. Là, c'est malgré elle, pour le coup. Et comme elle ne pourra jamais avoir le corps qui correspond à ce qu'elle a en elle, à la personne qu'elle est à l'intérieur, elle prend une décision pour régler le problème. Voilà, donc c'est ça l'histoire de la nouvelle. Et pour le coup, le vampire, mais c'est souvent comme ça que je l'utilise, en fait, le mythe du vampire, c'est vraiment l'incarnation d'une tragédie, la métaphorisation d'une tragédie personnelle, intime, psychologique. Et là, ben, c'est en l'occurrence par rapport à la transsexualité qui est un thème auquel je suis très sensible.
Effectivement, en travaillant sur le tableau monde, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas parler de vampires pas comme les autres, parce que quand on regarde les histoires de différentes figures vampiriques, en fait, on se rend compte que tous souffrent de leur nouvelle condition, que ce soit nouveau ou très ancien. Ils sont tous dans une situation vraiment de souffrance énorme, et ils ne pourront jamais être heureux dans leur condition, et certains sont voués à disparaître à plus ou moins long terme. Donc c'est assez incroyable de se rendre compte que finalement les vampires sont tous unis par ce sentiment de souffrance. voilà, maintenant on a fait tour. Alors c'est vrai que j'ai remarqué que, contrairement aux deux autres, chez toi le terme de vampire est utilisé très très vite, en fait. C'est-à-dire que la personne se rend compte très vite qu'elle est vampire, et du coup elle en parle, elle le dit directement. Donc il y a un ancrage dans cette culture qu'on a de la figure vampirique qui est immédiat, en fait.
Oui. Oui, alors le mot est utilisé très vite, par contre il est utilisé très peu.
Ouais.
Dans le cas de la nouvelle Mademoiselle Edouarda, elle devient un vampire, elle sait ce que c'est les vampires, en plus elle traîne un petit peu dans les milieux gothiques, etc. Donc forcément elle sait ce que c'est, ça n'aurait pas été cohérent qu'elle ne le sache pas. Elle a jamais eu envie de devenir vampire, donc forcément c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est réticente pour l'utiliser. Je précise que la narration est à la première personne, donc forcément on est dans son esprit, et elle utilise peu le mot. Donc c'est ça, et c'est toujours comme ça, puisque chaque fois j'écris à des périodes de... Tu disais que toi ça se passe à une période où le mot vampire n'existe pas. Moi il se trouve que jusqu'ici tout ce que j'ai écrit c'est des périodes où il existe déjà, mais je l'utilise peu, parce que c'est toujours problématique d'être un vampire, voilà. Même si évidemment on connaît tous des histoires qui nous ont fait rêver sur la condition de vampire, par exemple. Il y a pas mal de passages dans L'Estat, le vampire, où on entretient avec un vampire, où ça fait rêver d'être un vampire, il court la nuit sur les toits de Paris, c'est génial.
Très clairement.
voilà, c'est merveilleux. Et puis, il y a aussi, Nous sommes la nuit, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce film allemand, où c'est super génial d'être un vampire, on peut avoir plein d'argent, on fait du shopping, voilà. Mais,
Oui, il y a le côté surhomme, quoi.
Ouais, bien sûr.
Le côté extraordinaire. Pouvoir, mais ouais, voilà, ouais. Voilà, les pouvoirs de fascination sur les autres, ouais. Ou des choses comme ça. C'est vrai que tu parlais du fait qu'ils sont tous mal, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez profond sur le fait de changer la transition, ou la métamorphose d'homme humain normal à quelque chose de différent. Alors toi, c'est peut-être différent parce qu'ils sont déjà comme ça, il n'y a pas ce changement, mais c'est ça aussi, c'est quelque chose de profond sur l'être humain qui change, qui évolue, qui doit s'adapter ou pas.
Non, parce que ce sont vraiment des êtres surnaturels qui échappent à notre perception humaine et à notre entendement, quoi. Donc, mais en revanche, je pense que sur la question du vampire, l'énorme changement, c'est aussi la question de l'immortalité. Quand on devient immortel et quand on a 400, 700, 2000 ans, et qu'on sait qu'on ne peut pas mourir, je pense que ça chamboule pas mal le psychisme, quoi. Donc c'est logique.
Et comment on le gère.
Et comment on gère, exactement. Et dans les Striges, paradoxalement, on a traité ce thème-là de l'immortalité à travers un autre personnage, qui est une espèce de génie du mal, et qui est très très ancien aussi. On se rend compte, enfin, moi, je ne vais pas développer son histoire-là, mais voilà, on se rend compte que les Striges, lui, ont donné une forme d'immortalité à cet être humain, pour qu'ils les aident à solutionner leurs problèmes. Et au bout d'un moment, au bout de plusieurs centaines d'années, il pète les plombs, quoi. Et il devient schizophrène, il essaye de... Son psychisme essaye de trouver une solution pour clore cette immortalité, quoi.
L'univers des Striges n'est pas présent que dans le champ des Striges, mais aussi dans trois autres séries qui complètent vraiment l'univers. En tout cas, il y a 30 albums, c'est ça
Ouais, un truc comme ça.
Donc voilà, il y a un univers qui est assez vaste.
Oui, parce que le scénariste avec qui je travaille a voulu aussi développer dans le passé les liens qu'ont les Striges avec l'histoire, donc il y a effectivement une série qui se passe au Moyen Âge, d'autres dans le futur, voilà.
On va revenir brièvement à Vincent Tassi qui parle aussi de la figure vampirique dans un roman. Malheureusement, pas lu. Je te laissais en parler un petit peu.
Justement, ça peut totalement faire le lien avec ce que tu disais par rapport au problème de l'immortalité. Mm-hmm. Parce que dans mon roman, donc, qui s'appelle Apostasie, les vampires, alors il n'y a pas cette problématique de l'origine, parce que c'est quelque chose qui arrive comme ça. Hein. Alors ça peut être une métaphorisation d'un traumatisme psychique ou je ne sais quoi, mais... Les vampires deviennent immortels, ils ressentent en eux qu'ils sont immortels, mais en fait ils peuvent pas mourir, mais vraiment ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que même s'ils essayent de s'exposer au soleil, même s'ils essayent de plus boire de sang du tout ou quoi que ce soit, ça marche pas. En fait, tout ce qui leur arrive s'ils s'exposent au soleil, c'est qu'ils deviennent une espèce de misérable tas de cendres, mais ils vivent encore. Voilà. Et donc, à la rigueur, ils préfèrent pouvoir bouger quand même. Donc voilà, ils peuvent pas mourir, c'est pas possible. Et alors, là où encore une fois c'est très problématique, c'est qu'ils ne demandent que ça. Parce que l'immortalité, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au personnage qui devient fou au bout de quelques centaines d'années, bah là c'est pareil. Comment un esprit qui à la base est humain peut supporter ça. Et en fait, c'est la question qu'on se pose beaucoup quand on lit des livres de vampires, je trouve. Et moi, je pense qu'on peut pas le supporter, mais même si je peux pas savoir. Mais les vampires, au bout de quelques centaines d'années, pas plus, hein, je dirais, voilà, 300 ans par exemple, ils pètent les plombs et tout ce qu'ils veulent, c'est en finir. Mais ils peuvent pas. Donc lisez le livre pour savoir comment ils font pour trouver une solution.
Et par rapport à ce que tu dis, moi c'est pareil. Tu vois, j'ai un personnage qui va découvrir qu'il est immortel jusqu'au moment où il va comprendre qu'il y a quand même des choses qui peuvent le tuer, pour le coup. Et comment on fait quand on a passé 1500 ans en pensant qu'on ne pouvait pas mourir?
Ah oui.
Et du coup, moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on dit si qu'on... Voilà. C'est en plusieurs temps. C'est
oui.
Parce que s'il est tout seul dans son état et qu'il va découvrir tout ce qui ne le tue pas, et qui va éviter ce qui le fait souffrir, parce que, sans savoir que s'il reste trop longtemps au soleil ou si, enfin voilà, quand on se retrouve pas avec un pieu dans le cœur pendant 1500 ans, on peut pas savoir qu'un pieu dans le cœur va le tuer, par exemple. Donc ça va être d'autres apprentissages qui vont lui trouver ça. Je vous en dis pas trop non plus parce que c'est pas au tout début du roman tout ça, mais effectivement, comment on découvre qu'on est immortel, comment on découvre qu'on ne l'est pas vraiment. Parce que finalement, ces vampires-là, quand on les voit dans beaucoup d'histoires, ils ont l'air formidables, mais il y en a quand même un paquet qui meurt, donc l'immortalité est courte. Ouais.
Oui, très courte. Il n'y a rien de plus court que l'immortalité.
Des vampires.
Donc, moi, je n'ai plus vraiment de questions à vous poser, donc je vais me tourner vers la salle si vous avez des questions à poser à nos auteurs.
Vous avez le droit.
C'est toujours le moment délicat, personne n'ose prendre la parole, ça c'est normal.
Même
c'est
la
normal.
Thématique ne meurt de pas, je pense qu'on va la faire un sacré paquet de fois pour le week-end, celle-là.
Bien, non, personne.
Clément,
t'as un dessin, hein? Ah non. Je peux en trouver s'il est bon, mais là non.
Bah, de toute façon, nos auteurs sont là pendant toute la durée du salon, donc vous pouvez aller les voir sur les différents stands pour leur poser des questions, pour découvrir leurs œuvres qui sont toutes très intéressantes, et découvrir encore plus en profondeur le mythe empirique. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
Merci. Merci.